Good morning, ladies and gentlemen.
Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à l'appel conférence des résultats du premier trimestre de CGI. Je passe la parole à Monsieur Kevin Linder, ACP, relations avec les investisseurs. Allez-y, Monsieur Linder. Merci, Julie. Bonjour. Pour discuter des résultats financiers de CGI pour le premier trimestre de l'exercice 2026, je suis accompagnée aujourd'hui par François Boulanger, vice-président et chef de la direction, et Steve Perron, vice-président exécutif et chef de la direction financière. Cette conférence est diffusée sur cgi.com et enregistrée en direct à 9h, heure de l'Est, le mercredi 28 janvier 2026. Des diapositives supplémentaires ainsi que le communiqué de presse que nous avons publié plus tôt ce matin peuvent être téléchargés, tout comme notre rapport de gestion, nos états financiers et les notes complémentaires qui ont tous été déposées auprès de Cedar Plus et Edgar. Veuillez noter que certaines déclarations faites lors de la conférence téléphonique peuvent être de nature prospective. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus. Et CGI décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. La déclaration complète relative à la règle d'exonération est disponible dans notre rapport de gestion et notre communiqué de presse, ainsi que sur cgi.com. Nous recommandons à nos investisseurs de la lire dans son intégralité. Nous présentons nos résultats financiers conformément aux normes internationales d'information financière. Comme toujours, nous discuterons également des mesures de performance non conformes au PCGR qui doivent être considérées comme complémentaires. Le rapport de gestion contient les définitions de chacune des mesures utilisées dans nos rapports. Sauf indication contraire, tous les montants en dollars mentionnés dans cette conférence sont en dollars canadiens. Nous tenons également notre Assemblée générale annuelle ce matin et nous espérons que vous vous joindrez à nous en direct via la webdiffusion à 11h. Je cède maintenant la parole à Steve qui passera en revue nos résultats financiers du premier trimestre. Puis, François commentera nos perspectives commerciales et celles du marché. Steve, merci Kevin et bonjour à tous. Au cours du premier trimestre de l'exercice 2026, nous avons fait preuve de rigueur dans la gestion de nos opérations, tout en continuant à réaliser les investissements nécessaires guidés par notre stratégie en matière d'IA. Au cours du trimestre, nous avons réalisé des revenus de 4,1 milliards de dollars, en hausse de 7,7% par rapport à l'année précédente, ou de 3,4% si l'on exclut l'impact du change. La croissance provient de nos récentes acquisitions et par la demande continue pour nos centres de prestations de services dans la région EPAC. Ce segment affichant une croissance de 5,8%, principalement grâce à la prestation de services en mode délégué. Dans notre segment Royaume-Uni et Australie, grâce à l'acquisition de BJSS, la croissance a atteint 31%. Cette acquisition transforme nos activités au Royaume-Uni en augmentant considérablement leur échelle et nous pouvons désormais présenter l'étendue des services complets de CGI à nos nouveaux clients. Dans notre segment Europe de l'Ouest et du Sud, la croissance a atteint 9% grâce à l'acquisition d'Abside, qui comprend des services d'ingénierie. Comme nous l'avons indiqué au dernier trimestre, nos activités aux États-Unis ont été touchées par l'arrêt des activités gouvernementales au cours du trimestre. Le minutage et les répercussions connexes ont été conformes à ce que nous avions communiqué au trimestre dernier. Bien qu'une amélioration séquentielle soit prévue au prochain trimestre, notre segment au sein du gouvernement fédéral américain continue d'évoluer dans un environnement très dynamique. Les nouveaux contrats du trimestre se sont élevés à 4,5 milliards de dollars pour un ratio nouveau contrat facturation de 110%. Grâce au secteur privé et gouvernement locaux aux États-Unis à 169%, la Finlande, la Pologne et les Pays-Baltes à 124%, et la Scandinavie, Nord-Ouest et Centre-Est de l'Europe à 113%. Les nouveaux contrats continuent de découler de nos services en mode délégué, avec un ratio nouveau contrat facturation de 117%. Le ratio nouveau contrat facturation de SNC s'est établi à 100%, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis le premier trimestre de l'exercice 2025. En raison de l'arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis, nous avions précédemment annoncé que nos nouveaux contrats seraient affectés au cours du trimestre. Cela s'est effectivement produit, mais si l'on exclut le gouvernement fédéral américain, nos équipes ont enregistré un ratio nouveau contrat facturation combiné de 118%. Sur les 12 derniers mois, le ratio nouveau contrat facturation s'est établi à 110%, avec 122% en Amérique du Nord et 101% en Europe. Sur la même base, le ratio nouveau contrat facturation des services à mode délégué s'est établi à 122% et celui de SINC de 96%. Notre carnet de commandes sous contrat a atteint 31,3 milliards de dollars, soit 1,9 fois les revenus. Passons maintenant à la rentabilité. Le BAI ajusté du trimestre s'est élevé à 655 millions de dollars, en hausse de 7,1% par rapport à l'exercice précédent, pour une marge de 16,1%, en baisse de 10 points de base. Au cours du trimestre, nos résultats ont été affectés par l'arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis et par un impact ponctuel de 8 millions de dollars lié au coût de services passés, lié aux avantages sociaux réglementaires en Inde en raison d'un changement réglementaire. En incluant les coûts d'acquisition et d'intégration connexes de 26 millions de dollars, le bénéfice avant impôt s'est élevé à 600 millions de dollars, soit une marge de 14,7%. Notre taux d'imposition effectif au cours du trimestre s'est élevé à 26,3%, soit 40 points de base de plus que l'exercice précédent, principalement en raison de l'augmentation du taux d'imposition réglementaire en France. Nous prévoyons que notre taux d'imposition pour les trimestres à venir se situera entre 26 et 27%. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 461 millions de dollars, soit une marge de 11,3%. Sur la même base, le bénéfice par action après dilution s'est élevé à 2,12 $, soit une augmentation de 8% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice net s'est élevé à 442 millions de dollars, soit une marge de 10,8%. Et le bénéfice par action après dilution s'est élevé à 2,03 $, soit une augmentation de 6% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. Passons maintenant à la trésorerie. Nous avons généré une somme importante de 872 millions de dollars en flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, soit 21,4% des revenus totaux, grâce à l'efficacité de nos efforts de recouvrement. Le délai moyen de recouvrement des créances était de 37 jours au cours du trimestre, soit une amélioration de 8 jours par rapport au trimestre précédent et d'un jour par rapport à l'exercice précédent. À titre de rappel, notre premier trimestre affiche généralement le DSO le plus bas, principalement en raison des niveaux plus élevés de prépaiement des clients pour les taxes annuelles de maintien en état de l'API. Au premier trimestre, nous avons continué à déployer notre capital et avons réinvesti 87 millions de dollars dans l'entreprise, ce qui comprend des investissements stratégiques en IA avancée, 106 millions de dollars dans des acquisitions d'entreprises, 577 millions de dollars pour racheter nos actions et nous avons reversé 37 millions de dollars à nos actionnaires dans le cadre de notre programme de dividendes. Hier, le conseil d'administration a approuvé le renouvellement de notre programme d'offres publiques de rachat dans le cours normal des activités ou NCIB jusqu'en février 2027, nous autorisant à racheter jusqu'à 19 millions d'actions au cours des 12 prochains mois à des fins d'annulation. Au vu du cours actuel de l'action, nous prévoyons de rester très actifs dans notre programme de rachat. En outre, le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel en espèces de 17 cents par action. Ce dividende sera payable le 20 mars 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 18 février 2026. Avec 2,4 milliards de dollars de ressources en capital facilement disponibles et un ratio d'endettement net de 1, CGI dispose d'un bilan solide et de la capacité nécessaire pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance rentable. Les priorités de CGI en matière d'allocation du capital sont restées inchangées. Réinvestir dans l'entreprise, réaliser des acquisitions rentables et racheter des actions. Je cède maintenant la parole à François, qui vous donnera plus de détails sur le trimestre, les progrès de notre stratégie en matière d'IA et les perspectives pour notre entreprise et nos marchés. François?
Merci Steve et bonjour à tous. Nous avons commencé l'exercice sur une lancée positive qui a renforcé notre position parmi les rares entreprises à bénéficier d'une présence locale, d'une envergure mondiale, de capacités et d'un engagement, à être le partenaire de choix de nos clients, l'employeur de choix de nos employés et l'investissement de choix pour vous, nos actionnaires. au premier trimestre. Nous avons enregistré une croissance de nos revenus par rapport à l'exercice précédent, une forte rentabilité et une trésorerie record de 872 millions de dollars. Cela renforce encore notre capacité à alimenter notre stratégie de croissance rentable par croissance interne et par acquisition, conformément à nos priorités en matière d'allocation du capital. La confiance que nos clients accordent à CJ en tant que partenaire pour la réalisation de leurs priorités, notamment en matière d'IA avancée, transparaît clairement dans nos résultats. Cela se reflète également dans nos nouveaux contrats qui ont atteint près de 4,5 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de plus de 300 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Un peu plus de la moitié des nouveaux contrats provenaient de nouvelles attributions et d'ajouts qui élargissent généralement notre champ d'action auprès de notre client, de nos clients. De plus, notre taux de signature a dépassé 95%, ce qui démontre la confiance que les clients accordent à la capacité de CGI à innover en permanence. Sur les 12 derniers mois, le total des nouveaux contrats a augmenté de 12%, atteignant un sommet de près de 18 milliards de dollars. Cette hausse est principalement attribuable aux services en mode délégué, qui ont augmenté de 16% par rapport à l'exercice précédent. Les carnets de commandes du segment SINC ont également augmenté par rapport au trimestre précédent, en glissement annuel et sur les 12 derniers mois. Par rapport à la même période au cours de l'exercice précédent, les signatures au premier trimestre dans le segment SINC ont augmenté de plus de 360 millions de dollars. Du point de vue sectoriel, tous les segments commerciaux ont clôturé le trimestre avec un ratio nouveau contrat facturation supérieur à 100%, notamment les secteurs de la fabrication, de la vente au détail et la distribution, qui ont enregistré une hausse de plus de 530 millions de dollars, soit 65% par rapport à l'exercice précédent. Parmi les signatures remportées au cours du trimestre, on peut citer un fabricant mondial basé en Europe, a conclu un nouveau partenariat stratégique avec CGI afin de moderniser ses services informatiques essentiels, notamment en intégrant des solutions d'IA avancées à ses activités. Un groupe de luxe mondial de premier plan en France a renouvelé sa relation avec CGI pour la prestation de services SAP à l'appui de ses activités de vente au détail et de fabrication. CGI étendra également l'intégration de l'IA grâce à notre pays afin d'optimiser la qualité du service et la productivité dans la gestion informatique. Le Conseil suédois de l'agriculture a élargi sa relation avec CGI grâce à un accord cadre pluriannuel soutenant la transformation numérique de l'agence et l'expansion de capacités d'IA fiables dans le développement et l'exploitation du système. Et Highmark, un assureur en santé aux États-Unis, a renouvelé et élargi son partenariat avec CGI afin d'accélérer l'innovation en matière de précision et d'intégrité du paiement des sinistres. Dans le cadre de cet engagement, CGI fournira une gamme de services basés sur l'IA grâce à notre propriété intellectuelle PropertyPay, qui permet d'identifier plus tôt les risques potentiels, d'améliorer l'efficacité et de réduire les erreurs de facturation à grande échelle. Comme indiqué au trimestre dernier, les nouveaux contrats du secteur public ont été affectés par l'arrêt des activités du gouvernement fédéral aux États-Unis au premier trimestre. Sur les 12 derniers mois, nos gains dans le secteur public ont atteint 104% ou 113% si l'on exclut le segment fédéral américain. À l'échelle mondiale, le nombre d'opportunités dans le secteur public continue d'augmenter, avec une hausse de 30% par rapport à la même période. Pendant l'exercice précédent, les agences continuent à donner la priorité à la modernisation, à la cybersécurité et à la rentabilité.
Je vais maintenant résumer les progrès réalisés par rapport à la stratégie d'IA de CGI. Commençons par l'intégration de l'IA dans notre gamme de services. Au premier trimestre, le déploiement de notre cycle de vie de livraison de logiciels basés sur l'IA a permis d'améliorer la vitesse et la qualité de l'ingénierie grâce à l'adoption massive d'assistants de développement d'IA et d'outils avancés. Nous renforçons la confiance et la conformité grâce au cadre d'utilisation responsable de la technologie de CGI qui intègre la gouvernance des risques liés à l'IA directement dans les cycles de vente et de prestation de services. En termes d'adoption par les clients, nous continuons à observer une évolution de l'expérimentation vers l'intégration dans l'entreprise. La transition n'est pas rapide ni directe, car le succès dépend de bases solides en matière de qualité des données, de modernisation des plateformes et de gouvernance, qui sont autant de points forts de notre équipe. Voici quelques exemples récents de nos projets d'IA. Lancement d'une stratégie d'IA agentique pour une institution financière canadienne afin de guider son adoption de l'IA axée sur les résultats. réalisation d'une rétro-ingénierie d'application basée sur l'IA pour une agence fédérale américaine afin de soutenir des décisions de modernisation plus rapides. Application de l'IA par apprentissage profond pour un prestataire de soins de santé britannique afin d'améliorer la sélection des embryons pour la FIV et les résultats pour les patients. La mise en œuvre de l'AI Ops chez un détaillant canadien afin d'améliorer la fiabilité, l'efficacité, l'optimisation des coûts informatiques et le déploiement d'un assistant de développement alimenté par l'IA pour une société de services publics américains afin de simplifier les intégrations des systèmes et accélérer la mise en œuvre de la facturation des clients. La reconnaissance de CGI en tant que partenaire client de rentabilité de l'investissement dans l'IA continue d'être reconnue par les principaux cabinets d'analystes du secteur. À titre d'exemple, au premier trimestre, CGI a été classé parmi les leaders dans le rapport IDC MarketScape concernant les services d'IA mondiaux destinés aux administrations publiques locales et régionales. Passons maintenant à la manière dont nous sommes leaders grâce à nos plateformes intégrées à l'IA et à nos alliances. 65% des solutions de pays de CGI intègrent une automatisation intelligente basée sur l'IA. Nos solutions de pointe sont utilisées pour permettre des opérations commerciales essentielles à la mission, offrant chaque jour une valeur directe à nos clients. Notre programme de partenariat technologique continue également de s'étendre, introduisant de nouveaux canaux de commercialisation et renforçant nos relations avec les fournisseurs de services infonuagiques et les entreprises natives de l'IA. Nous avons récemment annoncé un accord pluriannuel avec Google Cloud afin d'aider nos clients à accélérer les résultats de l'IA agentique avec Gemini Enterprise et une alliance mondiale de commercialisation avec OpenAI pour aider nos clients à déployer des capacités d'IA avancées de manière sécurisée, responsable et à l'échelle de l'entreprise. Passons maintenant à la manière dont nous allions talents et technologies d'IA. Si nos partenaires CGI utilisent naturellement l'IA dans le cadre de leur travail quotidien, environ 40% de nos conseillers possèdent une expertise en IA avancée et en données, soit plus du double par rapport à l'année dernière à la même époque. Dans ce contexte, les formations liées à l'IA continuent de dominer les cours de formation et de perfectionnement que nos spécialistes suivent sur notre plateforme CGI Academia. Nos investissements dans la formation et le recrutement ont également contribué à l'obtention par CGI de nouvelles certifications d'alliance et de nouveaux statuts de partenaires. Au cours du dernier trimestre, cela s'est traduit par des progrès avec AWS, Snowflake, ServiceNow et UiPath qui élargissent tous nos capacités, créent de nouvelles opportunités de développement commercial dans les domaines de l'IA avancée, de l'info nuagique et des données. Enfin, nous avons également progressé dans l'adoption interne de l'IA par CGI. Grâce aux nouveaux accords conclus avec Google Cloud et OpenAI, nous élargissons notre utilisation actuelle de ces plateformes en équipant des dizaines de milliers de conseillers et d'experts supplémentaires. Nous avons également lancé notre plateforme interne AI Exchange qui suscite un engouement accru car nos équipes y contribuent et réutilisent des ressources de code éprouvées, des processus de prestation de services et des guides de bonnes pratiques. L'AI Exchange de CGI est conçu pour nous aider à développer et à industrialiser la prestation de services d'IA à l'échelle mondiale tout en maintenant la qualité, la rapidité et la rentabilité. Alors que nous réfléchissons aux 50 dernières années d'activité et plus important encore à notre avenir, je vais maintenant vous présenter la stratégie de création de valeur de CGI pour nos trois parties prenantes et notamment vous, nos actionnaires. Notre stratégie de création de valeur repose sur quatre axes. L'intégration de systèmes et les services conseils, y compris les services liés à la propriété intellectuelle, les services en mode délégué, y compris nos solutions de propriété intellectuelle, les acquisitions rentables et les programmes de rachat d'actions et de dividendes. De par leur conception, ces axes sont complémentaires et contre-cycliques par rapport à la dynamique du marché externe afin de favoriser une croissance continue des revenus et une augmentation du bénéfice par action au profit de nos actionnaires. Ceci permet à CGI d'obtenir des résultats même si l'environnement commercial mondial reste complexe et inégal. Commençons par notre premier axe de valeur, SISC. Lorsque les marchés économiques sont plus solides, les priorités des clients ont tendance à s'étendre à l'innovation, l'expérimentation et la croissance. À mesure que les clients investissent dans des initiatives plus discrétionnaires, nos capacités de SISC les aident à faire évoluer leur activité, à intégrer leurs systèmes centraux et à créer et développer de nouvelles plateformes et applications, ce qui inclut régulièrement des services conseils portant sur nos solutions de propriété intellectuelle. Aujourd'hui, nous observons les premiers premiers signes d'une reprise de la demande sur le marché, car le potentiel de nouvelles opportunités est important, notamment pour les services conseils et d'intégration en matière d'IA liée à la propriété intellectuelle de CGI et aux plateformes d'alliance. Enfin, notre potentiel d'opportunité SIC à un stade avancé a augmenté de plus de 40 % par rapport à l'année dernière. De plus, au premier trimestre, le chiffre d'affaires de SIC a augmenté de 9,8 % par rapport à l'année dernière en devise constante. Comme Steve l'a mentionné, les nouveaux contrats SIC au cours du trimestre ont atteint 100 % des revenus. Passons maintenant à notre deuxième volet, les services en mode délégué de CGI, qui intègrent pleinement l'IA avancée comme pratique standard, ce qui les rend particulièrement attrayants pour les clients. En période d'incertitude sur les marchés, les clients souhaitent généralement réduire leurs dépenses afin d'accroître leur flexibilité financière dans le but de réinvestir dans la numérisation. Voilà pourquoi nous constatons une augmentation de la demande pour les services en mode délégué de CGI qui permettent aux clients de bénéficier de partenariats à long terme axés sur les résultats avec des structures de coûts claires et des engagements en matière d'amélioration de la productivité et d'innovation. Les capacités de prestations mondiales de CGI joue également un rôle essentiel dans nos services en mode délégué, notamment l'expertise de notre centre de compétences mondiales qui a récemment été reconnu par Everest Group. Grâce à nos services en mode délégué, y compris ceux fournis avec nos solutions pays, nous devenons une partie intégrante de l'équipe du client. Cela génère des revenus récurrents à plus long terme avec des marges plus élevées pour CGI. Du point de vue des revenus, au cours des 12 derniers mois, notre activité de service en mode délégué a augmenté de plus de 600 millions de dollars, soit 8 % par rapport à l'année précédente. Au premier trimestre, les nouveaux contrats de service en mode délégué ont augmenté tant sur une base annuelle qu'au cours des 12 derniers mois. Il convient de noter que depuis le premier trimestre de l'année dernière, 40 % de nos contrats de service en mode délégué ont été remportés auprès de nouveaux clients. De plus, le nombre de nouvelles opportunités reflète cette hausse avec une augmentation de plus de 20 % par rapport au trimestre de l'année dernière. En ce qui concerne notre troisième volet, la stratégie d'acquisition de CGI, compte tenu de la solidité continue du bilan de CGI et les conditions actuelles du marché, nous continuons à poursuivre nos acquisitions rentables à un rythme soutenu. Au cours du trimestre, nous avons conclu deux fusions en Europe. Nous avons finalisé la fusion avec une division de Comarc qui renforce notre présence en Pologne ainsi que dans les États baltes et renforce notre expertise dans le secteur public et notre portefeuille de propriété intellectuelle dans les domaines de la sécurité sociale, de la santé, l'agriculture et autres domaines d'activité. En Amérique du Nord, nous avons étendu notre présence au Canada grâce à la fusion avec Online Business Systems, une société de services conseils informatiques bien établie et basée à Winnipeg. Grâce à cet accord, nous renforçons nos capacités en matière d'IA, de transformation numérique et de cybersécurité auprès de nos clients entreprises au Canada et aux États-Unis. Je souhaite la bienvenue aux plus de 800 nouveaux conseillers conseillères qui ont rejoint CGI à la suite de ces fusions. Notre portefeuille de cibles de fusion supplémentaire reste solide. Nous nous engageons à acquérir les bonnes entreprises au bon moment, au bon prix, sans exception. Enfin, le dernier volet, les rachats d'actions et les dividendes qui apportent une valeur ajoutée à nos actionnaires, surtout présentement, car on estime que l'action CGI est sous-évaluée. Nous prévoyons donc de rester très actifs dans notre programme de rachat d'actions tant que ces conditions persistent. Lorsqu'on se tourne vers l'avenir, on regarde l'ensemble des marchés que nous desservons, les conditions économiques, les priorités des clients, on voit que ça continue de varier selon les régions et les secteurs. Ces priorités sont influencées par l'incertitude géopolitique, l'évolution des exigences réglementaires et l'importance croissante des systèmes informatiques pour la résilience, la souveraineté, la compétitivité et les opérations quotidiennes des pays. En même temps, l'intérêt pour l'IA reste élevé, ce qui rend encore plus important pour les organisations de faire la différence entre le battage médiatique et l'impact pratique. Dans ce contexte, la confiance, la connaissance approfondie du secteur et la proximité avec le client sont plus importants que jamais. Pour aborder leurs priorités avec succès, les clients ont besoin de partenaires comme CGI qui possèdent les capacités de service complet et l'expertise sectorielle nécessaire pour moderniser leurs systèmes centraux, renforcer leur cybersécurité et intégrer de manière durable les capacités numériques basées sur l'IA dans leurs opérations. En conclusion, Même si l'environnement reste incertain, nous observons une amélioration progressive dans certains secteurs et certaines régions. Nous prévoyons donc une amélioration continue pour le reste de l'année. CJI a été conçu pour croître et durer. Depuis 50 ans, nous sommes au cœur de l'innovation technologique continue et de la transformation des entreprises, en combinant l'ingéniosité humaine et la puissance de la technologie pour aider nos clients à obtenir des résultats significatifs. Alors que le rythme du changement s'accélère, nous restons concentrés sur ce qui compte le plus, soit aider nos parties prenantes à réussir. Merci de votre intérêt, de votre soutien continu. Passons maintenant aux questions, Kevin.
Merci, nous passons maintenant aux questions. Merci, mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 sur votre clavier. Un moment, s'il vous plaît, la première question arrive. La première question vient de Richard Fay, de la Banque nationale du Canada. Allez-y. Merci. En ce qui concerne les acquisitions, est-ce que la volatilité et l'incertitude reliées à l'IA, est-ce que ça a changé la façon dont vous évaluez ces transactions, comme l'avenir est incertain? Non, pas du tout. Merci, Richard, de votre question. Nous continuons à voir l'IA comme un facteur habilitant pour l'avenir. Quand il est temps d'examiner des fusions et des acquisitions, nous voulons voir comment accroître notre empreinte dans nos marchés métropolitains, là où nous voulons accroître notre présence. Et il y a les autres facteurs transformateurs aussi qui peuvent aider CJI à l'avenir. Alors, ça ne change rien dans nos politiques, notre vision des fusion et acquisition. Nous examinons les relations, les lieux où nous pouvons continuer à grandir. Alors, l'IA est un facteur habilitant, non pas quelque chose qui fait que nous devions changer notre philosophie. Très bien. Ma deuxième question concerne le secteur fédéral américain. Évidemment, au dernier trimestre, il y a eu l'arrêt des activités gouvernementales. En réfléchissant à cela, est-ce que vous croyez qu'il y a des choses qui se passent en coulisses et qui pourraient mener à une restructuration? Et aussi, à quel moment et à quelle vitesse pourriez-vous procéder à une restructuration si c'était nécessaire? Encore une fois, nous croyons que le secteur fédéral américain est un très bon client à nous. Ça fait plus de 30 ans que nous travaillons avec le gouvernement fédéral. Ce secteur a besoin d'ETI à l'appui de ses activités. C'est toujours un bon marché. Bon, l'environnement géopolitique est très dynamique en ce moment. Oui, il y a eu l'arrêt des activités gouvernementales. On parle peut-être d'un autre tel arrêt à la fin de la semaine, on verra. Mais il s'agit de vents contraires à court terme. Nous, on a une vision à long terme, toujours. C'est un très bon marché pour nous. Très bien, c'est utile. Merci. La prochaine question vient de Stephanie Price de la CIBC. Allez-y. Bonjour. Poursuivre cette question sur le secteur fédéral américain. Bon, vous avez annoncé que les marges seraient un peu plus faibles en raison des arrêts des activités. À l'avenir, ces marges, à quoi pourraient-elles ressembler dans cet environnement très dynamique? Est-ce que vous voyez des pressions exercées sur les prix? Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer en matière de tarification? Eh bien, évidemment, les revenus et le profit ont été ce qu'ils étaient. Notre taux d'utilisation aussi a baissé avec l'arrêt des activités gouvernementales. Il y a des gens qui n'ont pas pu facturer. Alors, on avait les coûts, mais pas les revenus. Quand le gouvernement a réouvert, nous avons pu redéployer nos gens et les contrats. Et cela a amélioré le taux d'utilisation. Par conséquent, cela a amélioré la marge. Il ne s'agit pas nécessairement de pression exercée sur les coûts, sur les taux. Avec l'arrêt, et comme c'était temporaire, Nous voulions garder nos effectifs. Voilà pourquoi ça a mis de la pression sur le taux d'utilisation. Très bien. Alors, à l'avenir, ça devrait correspondre davantage à ce qui se faisait par le passé. En ce qui concerne les CSC, c'est bon de voir que la valeur des nouveaux contrats, et puis pour dans les stades avancés, il y a une amélioration. Est-ce que vous pourriez nous parler des améliorations qu'il pourrait y avoir dans le domaine? Oui, merci de cette question. Oui, évidemment, nous observons des améliorations dans le secteur, dans pas mal tous les secteurs. Je vais commencer, par exemple, dans le secteur financier. Ils ont besoin de conseils en matière d'IA, par exemple. Nous les aidons à déployer certains de ces outils d'IA. J'ai donné des exemples là-dessus tout à l'heure. Il en va de même dans le secteur de la fabrication. Ils ont besoin de conseils pour déployer divers outils. Vous savez, les services conseils en management, c'est encore soft, mais tout ce qui concerne CIO, particulièrement avec ces outils, il y a beaucoup de nouvelles demandes, pratiquement dans tous les secteurs.
Merci beaucoup. Sutton Sukama de Stifo Canada a une question. Bonjour. J'aimerais d'abord parler de la consolidation du côté des fournisseurs. Pouvez-vous nous dire ce que font vos clients, comment ils traitent avec leurs partenaires de TI et quel pourcentage de nouveaux contrats est associé à cette consolidation du côté des fournisseurs? Excellente question. C'est une tendance qui se dessine un peu partout dans le monde. Les clients se rendent compte qu'ils doivent réduire le nombre de partenaires et surtout le nombre de travailleurs autonomes et qui parfois on fait affaire avec il y a de toutes petites entreprises qui sont en lien avec ces fournisseurs. Et au dernier trimestre, j'avais fait l'annonce d'une consolidation avec une institution bancaire. Ils avaient une centaine de fournisseurs et ils ont réduit ça à 4 ou 5 fournisseurs et nous sommes un de ces fournisseurs. Nous avons constaté ça surtout auprès des très grandes entreprises. Ça se déroule aussi en Allemagne. Il y a cette société d'automobiles qui faisait affaire avec un millier de fournisseurs. Et encore là, nous avons, grâce à cette consolidation de fournisseurs, nous sommes un de leurs fournisseurs. Alors, c'est une tendance qui devrait se poursuivre. Étant donné qu'on a ce modèle de proximité avec nos clients, ça nous ouvre la porte à de nouvelles occasions auprès de ces clients existants. Merci. Une deuxième question concernant l'adoption de l'IA par les entreprises récemment. Vous avez annoncé ce partenariat avec Google Gemini et OpenAI. Et comme l'ont fait d'autres entreprises dans votre industrie, où en êtes-vous par rapport à ce cycle d'adoption de l'IA dans les entreprises et les dépenses en matière d'IA? Est-ce que ça augmente ou c'est tout simplement on a transféré le budget qui est ailleurs vers l'IA? Et si vous avez donc une information à cet effet? Concernant les outils en tant que tels, plusieurs entreprises ont déjà déployé ces outils, du moins pour les grandes entreprises, c'est déjà en place. Ce qu'elles doivent faire, ces entreprises, c'est d'envisager les résultats souhaités. Ils ont besoin d'entreprises telles que la nôtre pour les aider à produire ces résultats. Et voilà où nous en sommes. Nous offrons beaucoup de services conseils à ces clients parce que les clients, dans une certaine mesure, ne savent pas exactement quoi faire par rapport à ces résultats qu'ils souhaitent obtenir. Il y a un autre bon exemple plusieurs de ses clients utilisent, disons, d'anciennes applications et peut-être qu'ils ne les avaient pas changées depuis 15 ou 20 ans parce que c'était trop compliqué ils craignaient que ça tombe en panne. Alors, maintenant, avec l'IA, ils voient ça d'un autre œil et ils envisagent de faire une mise à jour ou une reconfiguration. Voilà, ce sont des nouvelles demandes qu'on n'avait pas par le passé. Parce que les gens disaient, non, on ne veut rien changer. Et ça fonctionne pour l'instant, mais maintenant ils se disent peut-être qu'on peut réduire nos coûts en modifiant, en changeant ces applications. Voilà, c'est une toute nouvelle forme de demande que nous n'avions pas auparavant, et on s'attend à ce que ça se poursuive sur cette lancée. Et dans le cas des services en mode délégué, c'est encore très populaire. Les gens veulent épargner, et l'IA est un outil qui peut leur permettre de faire des économies. Alors, on offre, en plus de nos autres services, on peut ajouter ce service qui va aussi nous offrir de nouvelles opportunités. Merci pour ces commentaires. Thanos Moskopoulos du marché des capitaux canadiens à la BMO. Bonjour, François. Avec le taux de rendement élevé que les gens peuvent obtenir à partir de l'IA, si on regarde le plus récent trimestre, est-ce que peut-être que les chefs d'informatique comprennent l'importance de l'IA, mais les chefs de la direction financière voient ça d'un autre œil. Alors, quel est donc ce qu'ils attendent de voir ce qui va se passer? Non, je pense que les gens se rendent compte que c'est plus compliqué que ce qu'ils n'avaient imaginé. Ça, c'est une explication. Et deuxièmement, il y a la qualité des données. C'est très bien de dire, on a déployé l'IA, mais l'IA, c'est bon en autant que vous avez de bonnes données. Et voilà un des défis auxquels sont confrontées ces entreprises. Voilà pourquoi ce travail doit être fait. Bon, vous évoquez le chef de la direction financière. Il voit, combien ça coûte, ces outils-là. Il doit débourser ces sommes-là mensuellement. Et il ne voit pas les résultats de suite à cela. Alors que les chefs de direction informatique veulent qu'on progresse, mais ils doivent d'abord améliorer la qualité des données, la qualité de certaines applications. Et ça se fait graduellement. Alors, je pense que de manière générale, de manière générale, on peut dire que ce que l'on voit dans les marchés, et là, les gens commencent à parler des tarifs dans certains endroits. Et surtout lorsque je parle à des clients en Europe, les gens continuent d'être préoccupés par ces situations. D'accord. Et concernant votre propre utilisation de l'IA à l'interne, lorsqu'on regarde vos marges pour cet exercice, on voit que vous avez commencé, est-ce qu'on peut dire que vous commencez à saisir des désavantages de l'IA? Mais je vais commencer à répondre et je demanderai à Steve d'intervenir par la suite. Oui, on a déjà obtenu des économies grâce à l'IA et une partie de ces sommes économisées, on les réinvestit dans l'entreprise. Et pendant ce dernier exercice, parfois il y avait eu des dépenses qui ne surviennent qu'une seule fois, par exemple en aide, mais éventuellement ça va remonter. Steve, à vous la parole. Nous, on utilise ça à l'interne. Les membres de l'équipe s'en servent bien. Ça rehausse l'efficacité, mais on continue d'investir là-dedans, car on veut constamment s'améliorer. Et Et si on parle de ces marges globales qu'on a obtenues pendant cet exercice, on en est fier parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations au sein de plusieurs UAS. Bon, il y a eu en Inde, là, et aussi au dernier exercice, il y avait eu pour fédéral. Mais si on se tourne du côté du nord-ouest, l'Europe, la Scandinavie, il y a une bonne amélioration des marges. On voit aussi des avantages du côté des marges avec l'intégration de PGSS. Et en France, les marges se sont améliorées au sud et à l'ouest de l'Europe d'une année par rapport à l'autre. Ça s'est amélioré. Alors, c'est très bien. On a de bonnes activités qui ont renforcé nos marges. Et c'est donc très, très bien. Ça augure bien pour le reste de l'année.
La prochaine question vient de Robert Young de Canaccord Canada. Allez-y. Bonjour. Le commentaire sur le pipeline du gouvernement qui augmente de 30%, pourriez-vous nous expliquer? Bon, pour le gouvernement fédéral américain, vous avez dit que les nouveaux contrats avaient été touchés en raison d'une plus grande volatilité. Aussi, il semble que les gouvernements de par le monde cherchent plus de souveraineté, de maîtrise des technologies locales. Pourriez-vous nous expliquer d'où provient cette croissance quant au nouveau contrat? Oui, merci, Robert. Oui, nous observons un bon élan sur le plan des gouvernements de par le monde. Je vais commencer par la situation ici au Canada. Le Canada, comme vous le savez, souhaite réaliser des investissements importants en défense, par exemple. Alors, on y inclut la cybersécurité. Ils ont besoin de TI. Pour les soutenir, ils veulent réduire les coûts dans la prestation de services à leurs citoyens. Et pour ce faire, ils devront concevoir de nouveaux systèmes. Alors, c'est ce que nous observons. Il y a un bon potentiel pour nous dans l'avenir. Nous avons des discussions avec le gouvernement canadien pour comprendre quand et comment cela sera déployé. Il en va de même ailleurs dans le monde. Comme vous le savez, les pays souhaitent investir beaucoup en matière de défense. Déjà, nous avons des discussions avec des ministères de la Défense en Allemagne, au Royaume-Uni. Il y en a qui sont des clients. Déjà, l'OTAN, c'est un de nos clients. Alors, il y a de l'élan. Il y a des discussions qui ont cours. Il y a de belles occasions à saisir. Pour revenir à la situation aux États-Unis, écoutez, tout ce qui concerne les États-Unis, les gouvernements locaux aux États-Unis, on voit qu'il y a un bon élan. Dans une certaine mesure, ils prennent la place du gouvernement fédéral dans certains de ces investissements. Donc, il y a un bel élan là aussi. Pour le gouvernement fédéral, oui, il y a APK. Versus l'année dernière, quand on parlait de doses et quand il y a eu l'arrêt des activités gouvernementales. Il y a donc des occasions à saisir dans le pipeline. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres arrêts des activités gouvernementales. Et il pourra y avoir des appels qui seront retenus dans les prochains mois. Il semble que vous soyez assez confiant que la croissance de ces produits éventuels soit durable, entraîne une croissance stable aux États-Unis et de par le monde, j'imagine. Eh bien, de par le monde, oui, pour le gouvernement fédéral américain, eh bien, vu tout ce qui se passe, ça pourrait être un petit peu différent, mais en même temps, pour les gouvernements étatiques et les gouvernements locaux, les choses vont très bien aux États-Unis. Les effectifs, maintenant, c'était stable d'un trimestre à l'autre en augmentation, en glissement annuel. Et, bon, il y a des vents de tête en matière d'auto-utilisation aux États-Unis. Est-ce que vous pourriez parler de la croissance des revenus par employé et aussi, est-ce que Comark et OBS sont inclus dans les effectifs ou est-ce qu'on doit s'attendre à une croissance dans le prochain trimestre? Comark et OBS sont inclus dans les effectifs, car ils ont fermé avant la fin du trimestre. En ce qui concerne le revenu par employé, il y a eu une augmentation. Encore une fois, vous pouvez vous attendre à ce que cette croissance se maintienne. Comme je l'ai dit par le passé, beaucoup de nos services délégués sont basés sur les résultats. Le fait que nous utilisions davantage d'IA dans la prestation de nos services en mode délégué, je n'ai pas nécessairement besoin des mêmes effectifs, du même nombre de personnes pour offrir ces services. Là, vous pouvez quand même vous attendre à ce que le revenu par effectif augmente en raison des nouvelles technologies que nous déployons très bien. Au dernier trimestre, vous avez parlé des prix fondés sur les résultats. Vous avez parlé de programmes fondés sur les résultats. Quand vos concurrents présentaient une croissance importante des contrats fixes avec leur plateforme exclusive, je me demande là si comment est-ce que ça pourrait influencer le modèle et la marge. Oui, quand c'est fondé sur les résultats, ça peut aussi être à prix fixe, particulièrement quand c'est de plus courte durée. Par exemple, service en mode délégué de 2-3 ans, souvent, ça peut être un prix fixe pour les 3 années. Quand c'est à plus long terme, il faut tenir compte du volume. Et c'est bon pour le client, c'est bon pour nous, tout à la fois. Alors, c'est positif pour tout le monde, mais oui, il y aura davantage de projets à prix fixe. Je crois que le modèle fondé sur les intrants est ce qui sera réduit. Ça sera remplacé par ces modèles fondés sur les résultats. Est-ce que ça a une incidence sur les marges? Eh bien, je dirais qu'avec un prix fixe, on sera en mesure d'améliorer la marge à long terme. Une fois que c'est fixé, toutes les façons de réduire les coûts, ça contribuerait directement à notre marge. Très bien, merci. La prochaine question vient de Kevin Krishnaratne de la Banque Scotia. C'est à vous. Bonjour, merci. Bon, c'est bon de voir ce qui est arrivé avec les nouveaux contrats avec SINC. Bon, vous avez parlé de service conseil CIO, mais je crois que les tendances ont l'air bien peut-être un peu différentes de ce dont vos pairs ont parlé récemment. Je me demandais si vous pouviez commenter, nous expliquer plus à fond ce qui se passe. Qu'est-ce qui est propre à CGI dans ce segment relativement à des pairs? On voit des signes précoces là, de choses qui se passent dans le secteur dans son ensemble. Écoutez, je ne sais pas quelle est la situation pour les autres entreprises, mais pour nous, avec notre modèle de proximité, je crois que c'est l'élément distinctif, vraiment, par rapport à la concurrence. Nous sommes près de nos clients, nous tissons des relations avec eux, nous connaissons leurs activités, leur secteur. Je crois que ça nous aide à être là. Nous sommes leur choix quand ils cherchent de l'expertise, quand ils ont besoin d'aide pour le déploiement de nouvelles technologies, par exemple. Alors, ça en revient à la nature de notre modèle. Ça nous aide à gagner. Très bien. Deuxième question. Le thème de l'adoption de l'IA dans l'entreprise. Pourriez-vous parler de différences que vous observez dans cette technologie? Bon, l'IA d'entreprise par rapport au logiciel d'entreprise pour CGI et d'autres fournisseurs de TI, par exemple, certains de ces cas d'utilisation d'IA sont en mode ascendant. C'est peut-être différent d'un déploiement ERP quand c'est descendant. Est-ce que vous avez des réflexions là-dessus? Donc, les points d'entrée de l'IA dans l'entreprise plutôt que ce qui s'est passé par le passé. Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour votre entreprise? Écoutez, il s'agit d'un outil qui est déployé au profit de tout le monde. Il y a le côté l'entreprise qui va se servir de ces outils, qui va tenter d'inventer quelque chose avec l'outil. Parfois c'est bon, parfois c'est moins bon. Comme dans tout, il y aura un équilibre à cet égard. Je vais faire une analogie avec le nuage. Je crois que quand le nuage est sorti, tout le monde disait, oh, c'est beaucoup moins coûteux, beaucoup plus convivial, on le déploie. Et c'est ce qui s'est passé. On s'est rendu compte à un moment donné que les économies n'étaient plus au rendez-vous parce que ce n'était pas géré. Et tout le monde était en mesure d'acheter l'info nuagique. À un moment donné, c'était même plus coûteux qu'auparavant. Alors, je crois que c'est la même chose qui se passe ici. Ça en revient seulement aux employés et qu'ils font ce qu'ils veulent avec les outils, ça va susciter plus de coûts dans la machine. Il faudra faire attention. Voilà pourquoi, bon, c'est bon pour l'innovation, oui, mais d'un autre côté, il faut quand même mettre en place des processus pour en assurer une bonne gestion. Et c'est là où on peut aider les clients. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Dans beaucoup de ces sites de conseil, on les aide à mettre en place des processus pour que cette approche ascendante, comme vous le dites, n'est pas chaotique et que les clients sont en mesure de gérer tout cela. C'est utile comme nuance. Merci. La question suivante, Surinder Thind de Jefferies USA. La parole est à vous. Merci. François, quand on souhaite comprendre l'importance de l'IA, pourquoi est-ce qu'on ne souhaite pas améliorer plus rapidement l'infrastructure, la modernisation des plateformes à ce stade-ci du cycle? Si on peut régler les problèmes de fond, on peut en récolter les fruits. Il semble que tout le monde avance lentement. C'est difficile de comprendre pourquoi. Bon, écoutez, le back-end s'est fait facilement, mais ce sont les données elles-mêmes qui sont complexes. C'est complexe. Dans une entreprise, il y a tellement de données à gérer. Et tout n'est pas nécessairement pertinent dans ces ensembles de données. Et c'est difficile. Il faut faire le ménage dans les données pour utiliser les données pertinentes, pour saisir cela dans la machine et en obtenir les bons résultats. Ça, c'est difficile. Ça apporte beaucoup de complexité. Il en va de même avec l'IA agentique. Quand on veut utiliser l'IA à des fins de processus, l'IA agentique. On travaille avec des applications. Les entreprises parlent de milliers d'applications. Ce n'est pas si facile à mettre en œuvre. Donc, les gens doivent bien gérer la situation. Aussi, il y a tout ce qui concerne la cybersécurité. Nous avons des clients aujourd'hui, pour de bonnes raisons, qui disent on peut utiliser l'IA dans la prestation des services en mode délégué. Certains clients sont prêts, d'autres disent « je dois comprendre l'incident sur la cybersécurité ». C'est une nouvelle technologie et ce n'est pas toujours facile de mettre en place une nouvelle technologie dans un environnement qui a été créé dans les 20-25 dernières années. Alors, c'est un parcours qu'on doit suivre et puis ce parcours se maintiendra. Voilà pourquoi ils ont besoin d'aide d'entreprises comme la nôtre. Bon, un point d'éclaircissement. Je crois que l'idée ici, c'est que on doit beaucoup faire du travail fondamental avant de s'attaquer aux problèmes liés à l'IA. Je crois que c'est ça ma question, vraiment. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de travail de base qui est fait? Parce qu'on doit, bon, bâtir ces plateformes de données avant même d'avoir l'IA. Est-ce que les entreprises ont eu des problèmes? Après la pandémie, il y a eu beaucoup d'investissements. Ils n'ont pas réalisé le rendement de l'investissement escompté. Ils se sont dit, je vais avancer plus lentement. Bon, plutôt que de dire, je vais réaliser de gros investissements. Bon, dans d'autres éléments d'infrastructure, il y a de gros investissements qui sont faits, les gens courent pour être arrivés et premiers, mais ça ne semble pas se produire à ce niveau-ci. Je crois quand vous parlez de réaliser important, d'investissement important, c'est en ce qui concerne les grands fournisseurs de services infonuagiques. Encore une fois, je rencontre beaucoup de clients et les clients investissent dans l'outil lui-même et déploient ces outils. Mais comme vous le dites, ils n'en voient pas nécessairement le rendement. Voilà pourquoi ils reviennent. Et oui, nous voyons qu'il y a de la mise en œuvre, beaucoup d'expérimentation, c'est ce qui s'est passé par le passé. Maintenant, il y a plus d'expérimentation. C'est vrai, les choses avancent plus lentement pour s'assurer qu'il y aura un rendement de l'investissement. Pour le moment, ils insufflent beaucoup d'argent dans les outils sans nécessairement en retirer les fruits. Voilà pourquoi c'est un parcours qu'on doit suivre et ça va prendre du temps. Par exemple, dans les institutions financières, ils font beaucoup de choses, de grands cas d'utilisation. Et les banques aussi, pour voir comment obtenir un rendement de l'investissement. Et parfois, il y a un rendement de l'investissement. Mais ça ne va pas se produire du jour au lendemain, ça c'est certain. Bien compris. Est-ce que vous pourriez élaborer sur un commentaire fait plutôt dans vos propos qu'on peut s'attendre à une amélioration continue pendant le reste de l'exercice. Bon, vous parlez d'amélioration séquentielle. Est-ce que c'est d'un point de vue organique, de devise, qu'est-ce qui pourrait s'en venir? Vous avez dit que les choses s'amélioreraient. Écoutez, oui, c'est ce que je disais. Oui, nous nous attendons à connaître des améliorations d'un trimestre à l'autre, particulièrement dans des endroits comme l'Europe. C'est ce à quoi nous nous attendons. Mais il y a un avertissement. Évidemment, il faut faire attention à une chose. Bon, l'arrêt des activités gouvernementales, je pensais que c'était derrière nous. On verra vendredi s'il y a encore un autre arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis et quel pourrait en être l'impact éventuel. Mais si je retire cet élément de l'équation, eh bien oui, nous observons des améliorations et on en verrait sur une base séquentielle aussi. Oui, très bien. Donc, est-ce qu'on retournerait à une augmentation de devises positives dans l'exercice qui s'en vient? Que pensez-vous de ça? L'idée, c'est d'améliorer la croissance globale en devises constantes, y compris la croissance organique. Alors, voilà l'objectif. Voilà ce à quoi l'équipe travaille. Et nous voyons des mouvements positifs en la matière. Merci. Julie, nous avons le temps de prendre une autre question. Très bien, merci. La dernière question de Jérôme Tubreuil, Desjardins. La parole est à vous. Merci beaucoup. J'aimerais souligner davantage le contraste entre SANC et ce qui se passe avec certains des pairs. Je me demande quel est le niveau de fiabilité des indicateurs principaux en ce qui concerne les produits éventuels et les nouveaux contrats depuis la reprise. Est-ce que vous croyez qu'on a fini de voir ce creux en matière de croissance organique, nonobstant l'arrêt des activités gouvernementales? Écoutez, je ne peux pas parler pour les autres, mais en ce qui nous concerne, oui, je crois qu'on a atteint le fond du baril pour ce trimestre et on s'attend à des améliorations graduelles. On verra ce qui se passe avec s'il y a un autre arrêt des activités gouvernementales. Mais c'est ça l'idée et c'est ce que l'on observe. Nous observons des améliorations d'un trimestre à l'autre. Et Jérôme, les nouveaux contrats SANC sont des nouveaux contrats à court terme. Alors, quand on voit ça, vous savez, quand on atteint la La marque du 100%, ça nous donne confiance, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les nouveaux contrats supérieurs sont compromis par des contrats à long terme. C'est ça que vous voulez dire? Je disais que de convertir les nouveaux contrats à CNC en revenus, c'est beaucoup plus rapide qu'avec les services à mode délégué. Ah, d'accord, c'est logique. Et dernière question pour moi. J'essaie d'évaluer l'évolution de l'industrie dans cette époque de l'IA. Est-ce qu'il y a des domaines où vous gagnez des contrats que vous perdiez par le passé, ou vous perdez des contrats qui, par le passé, vous gagnez? Et pourquoi, vu ce qui se passe en ce moment? Je ne dirais pas que nous perdions des contrats plus ou moins que par le passé avant l'IA, si c'est la teneur de votre question. Je ne vois pas ça. Comme j'ai dit, ce dont nous devons être certains, c'est de demeurer concurrentiel. Par exemple, dans les services en mode délégué, on doit continuer à intégrer ces nouvelles technologies dans la prestation de nos services pour veiller à assurer notre compétitivité. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous allons continuer à faire. Voilà notre stratégie. Et financièrement, avoir les talents nécessaires avec les bons outils, voilà pourquoi nous continuons à réaliser des investissements dans ces domaines. Et aussi, dans certains endroits, par exemple, on n'a pas de centre d'appel client, mais même à ça, ça va créer de la demande. Remplacer un centre d'appel par l'IA, ça prend beaucoup d'investissement, ça constitue beaucoup de changements, et les gens ont besoin d'une compagnie comme la nôtre pour les aider à naviguer à travers ces changements. Alors, je ne vois pas nécessairement des pertes dans des domaines où on était fort. Je ne vois pas ça. Mais c'est certain, il faut continuer à assurer notre pertinence, continuer à réaliser des investissements. C'est ce que nous allons faire. Très bien. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voilà tout le temps que nous avions pour la période de questions. Je repasse la parole à Kevin Lender pour les propos de clôture. Merci de votre participation. Pour rappel, une rediffusion de la conférence sera disponible sur notre site web ou en composant le 1-888-660-6264 et en utilisant le code d'accès 35024. De plus, un balado de cette conférence sera disponible en téléchargement dans quelques heures. Vous pouvez m'adresser vos questions complémentaires au numéro 1-905-973-8363. Merci encore. Et nous avons bien hâte de vous parler bientôt. Cela conclut l'appel conférence de la journée. Vous pouvez maintenant vous déconnecter. Merci. Je vous souhaite une belle journée, tout le monde.